Alors, je vais vous parler d'un sujet. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai commencé à lire Luther et Calvin. Parce que je me suis dit, c'est les références. Donc, on va d'abord s'intéresser à ceux qui ont initié la réforme. Et j'étais frappé par l'importance que revêt pour eux la colère de Dieu. Donc, je vais vous parler de la colère de Dieu. C'est pas un message facile. C'est pas très courant. Mais ce qui m'a frappé chez eux, c'était l'angoisse de savoir, pour l'un comme pour l'autre, comment on pouvait être certain de son salut, en fait. C'est-à-dire qu'à cette époque, dans les églises, on prêchait beaucoup sur la sainte colère de Dieu. Donc, en fait, c'est en étudiant notamment l'épître de Paul aux Romains que Luther a compris le plus clairement possible que le salut ne vient pas des œuvres, mais il vient de la foi. Si on essayait de quantifier dans toute la Bible les passages où est décrite la colère, alors la colère de l'homme et la colère de Dieu, hein, les deux, vous avez 600 références à la colère et tous ses synonymes, dont 400 concernent Dieu et 200 seulement l'homme, la colère de l'homme. Et si vous faites le comparatif avec l'amour, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, il n'y a que 350 fois où cet amour est cité. Autrement dit, il y a quasiment deux fois où la colère est évoquée dans la parole de Dieu. Et alors on va se poser la question, mais pourquoi dans nos églises, enfin, ou plutôt, voilà, quand on est devenu chrétien, on a souvent une fausse perception de ce qu'est la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes chrétien, les tensions de votre vie doivent se libérer, et puis il est de bon ton pour un chrétien de ne pas se mettre en colère. En tout cas, c'est ce qu'on dit aux enfants, ne te mets pas en colère. Or, la colère est un sentiment au départ, une émotion, excusez-moi, qui est une réaction par rapport à une situation qu'on ressent comme étant injuste. Alors, vrai ou faux, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent, la justice. Dans notre époque, dans notre civilisation, surtout l'occidental, les autres, je ne les connais pas, on a essayé de bannir cette colère sous de faux prétextes, en réalité. Et en fait, la colère, c'est à l'image des autres sentiments, des choses que Dieu a créées aussi. Et donc, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie? Donc, on a établi une fausse conception de la spiritualité, aussi bien chez les non-croyants avec l'humanisme, que chez les croyants avec la Bible. On évacue, on nie, on élimine la colère. Et c'est une situation psychiquement catastrophique, en réalité. En fait, la colère, c'est une vraie dynamite positive si on apprend à la gérer correctement. La colère désordonnée, évidemment, ça amène à la violence, et la violence, ça n'amène à rien, ou plutôt à la destruction. C'est un petit peu, on pourrait la comparer à un signal d'alarme, un petit peu comme la douleur. Quand vous brûlez, hop, il y a la douleur qui vient vous dire, attention, méfie-toi, c'est chaud, il faut que tu enlèves ta main. Et les personnes âgées, je me rappelle mon beau-père, sur la fin de sa vie, il n'avait plus de sensation au doigt, ça lui arrivait de se brûler sévèrement, parce qu'il ne retirait pas sa main. Et la colère, c'est un peu la même chose. C'est se dire, attention, là, il y a une situation qui n'est pas acceptable. C'est souvent dans les relations qu'on a, soit avec des proches ou des collègues, etc. C'est-à-dire que c'est, attention, je ne peux pas accepter ce qui se passe en ce moment. Et donc, il faut le prendre comme une situation où votre intégrité psychique est mise en danger. Voilà. Donc, en fait, il faut accueillir la colère, non pas comme quelque chose à repousser violemment, mais à domestiquer et à analyser. Et donc, si elle est bien canalisée, elle peut être le facteur de changement. En fait, le changement en soi ou le changement par rapport aux autres. Ma colère dit à l'autre que sa façon d'être ou de faire me blesse. Donc, elle n'est pas mauvaise en soi. Le problème dans l'enfance, c'est qu'on ne sait pas dire sa colère et que nos parents, pour avoir la paix, nous ont dit « calme-toi, ne te mets pas en colère ». Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait leur dire, c'est Et pourquoi te mets-tu en colère? Quelle est la cause? Et à partir de là, s'établit un dialogue et les tensions peuvent se... C'est Françoise Dolto, qui était une grande spécialiste de la psychanalyse des enfants, hein, qui recommandait de faire s'exprimer aux enfants les raisons de leur colère. Et par là même, de les amener à la contrôler, ce que tout adulte normal fait plus ou moins bien. Alors justement, à ce propos, venons un petit peu sur la Bible. Pouvez-vous me dire quelle est la première prière à la fois d'intercession et de revendication, on va dire, mue par la colère, qui est relatée dans la Bible? Ouais. Peut-être pas la première, mais en tout cas une fameuse. Chronologiquement, normalement. Oui, alors c'est dans la Genèse, mais plutôt au chapitre 15. Oui. Alors oui, il y aurait peut-être Adam dit oui, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui. Ça, c'est peut-être déjà un élément de rébellion par rapport à Dieu. Mais il y en a une qui est plus intéressante, c'est dans Genèse chapitre 15 verset 1, c'est Abraham à qui Dieu avait promis une descendance aussi nombreuse que les grains de poussière à la terre, et on lit donc dans Genèse 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il n'a pas l'air d'être content. Ah ben, tu m'avais promis une descendance, et puis je vois que c'est pas ce qui se passe. Je pense que quand même il est, bon, bien sûr il s'adresse à Dieu, donc il fait attention à ce qu'il dit, mais quand même derrière il y a une colère. C'est comme vous avec un supérieur, quand vous êtes en pétard contre lui, vous adressez d'une certaine façon, mais juste pour lui faire quand même comprendre que vous n'êtes pas content. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc il réitère sa promesse. Et c'est une grande spécialité chez Abraham. Il y a un autre épisode, c'est celui de Sodome et Gomorre. C'est au chapitre 18. C'est la négociation qu'il fait avec Dieu pour sauver les justes. L'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, à ce moment-là, il s'appelle Abraham, se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? C'est de la colère, ça. Non? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Donc, il essaye de... diplomatiquement. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit: bon, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et ensuite, la négociation continue, hein, vous connaissez la suite. Là encore, Abraham exprime une certaine colère devant la justice de cette perspective, et moi je trouve qu'on devrait copier un petit peu Abraham. Moi, ça m'arrive d'être en colère contre Dieu, parce que voilà, il y a des injustices, la mort de Anne par exemple, ça a été un moment de colère, et je l'ai exprimé devant Dieu. Je pense qu'il faut le faire, c'est sain pour nous libérer des tensions. Alors bien sûr, si on nous dit, tu comprends pas tout, et plus tard tu comprendras. Jésus dit à ses disciples: nul ne sait l'heure ni le jour de retour. Donc même moi je ne sais pas. Alors il y a des choses que même Jésus ne sait pas. À combien plus forte raison nous, Nous ne savons pas certaines choses, mais je pense qu'il est sain de dire sa colère à Dieu. Luther disait, je ne prêche jamais aussi bien que quand je suis en colère. C'est marrant. Et il a prouvé, car les 95 thèses affichées sur les portes de son église, eh bien, un geste de colère qui fait peut-être que nous sommes là ce matin. S'il ne les avait pas exprimées, ces 95 thèses, sa colère, bien d'autres, enfin, l'histoire n'aurait pas été la même, n'est-ce pas? Paul qui se balade à Athènes voit un autel à un dieu inconnu. Et là, il se met en pétard. C'est dans Actes 17, 16. Moi, j'aime beaucoup toujours ce passage. Je le cite dans tous mes, sur un message sur deux. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il court pas à Castorama chercher une tronçonneuse pour désinguer toutes les stèles à des dieux, mais il met sa colère à profit pour aller à l'aéropage et y faire le grand discours que l'on sait, qui sera le point de départ de l'église de Rome. Et même, il récupère cette histoire de dieu inconnu, vous savez, c'est comme ça qu'il amorce le truc. Autrement dit, la colère est productive, elle est créatrice aussi, quand elle est bien canalisée. En fait, dans notre développement psychologique, la colère, c'est un phénomène qui évolue avec nos stades de développement psychique. Ça, je me réfère à ma formation en relation d'aide. C'est nous qui fixons a priori le stade où nous nous arrêtons de progresser dans l'expression de notre colère. Je vais expliquer un petit peu plus, hein. Et à l'âge adulte, nous exprimons notre colère de la façon ou avec les raisons du stade où nous sommes fixés inconsciemment. Alors, il y a plusieurs stades dans le développement psychique de l'enfant, de l'individu. Donc, de 0 à 18 mois, la colère de l'enfant, qui dépend de ses parents pour ses besoins fondamentaux, est la colère de l'impuissance. Il a besoin de ses parents pour se nourrir. Et donc, il crie pour manger. Et donc, il se met en colère parce qu'il a le sentiment que les autres ne répondent pas à ses besoins, qu'il ne peut pas compter sur eux. Seulement que quand il est en colère, n'est-ce pas? Donc, il y a très peu d'individus, mais il y en a qui en restent à ce stade-là. De 18 mois à 3 ans, au moment de l'individuation, de la séparation avec la mère, il est confronté à la frustration, hein, quand on lui dit non, et son problème, c'est la coopération des autres à son bien-être. Aussi, à l'âge adulte, c'est quand la collaboration des autres ne va pas dans le sens qu'il veut, qu'il va se mettre en colère. Donc, quand vous avez un chef irascible, point à rien, ça peut venir de cela. Entre 3 et 6 ans, c'est le stade oedipien, on appelle ça, c'est-à-dire la toute-puissance magique. Il va être confronté aux limites de sa toute-puissance, et pour éviter les blessures occasionnées à son ego, il ne va pas se mettre en colère, mais à refouler cette colère, ce qui est justement embêtant. Et il va se réfugier dans, pour ne pas rester dans la puissance, dans l'idée que son père est tout-puissant. Oui, mais mon papa, il est plus fort que le tien, à la récré. Donc, au moins, je suis frustré, mais hop, je fais un pas de côté, mon papa, il est plus puissant. Et dans notre façon de prier, des fois, c'est un peu ça qu'on fait. Mon papa, il est plus puissant que le diable, donc il va m'arranger mon affaire. On veut pas être confronté à notre non-toute-puissance. À l'âge adulte, il fera de même. Donc, en face d'une injustice, il évitera de se mettre en colère. Au contraire, il se consolera en confiant ses problèmes à Dieu. Père débrouille avec mes problèmes, et malheureusement, en même temps, nous refaisons d'exercer notre responsabilité, notre liberté. Il y a des moments où on prie magiquement. On dit, oui, Seigneur, c'est trop compliqué pour moi. Je te laisse le truc, débrouille-toi. Et en fait, la situation peut s'enliser. Parce que, en réalité, on a besoin parfois d'intervenir, enfin de faire un effort. Moi, je me rappelle que quand on avait des problèmes de couple avec Françoise, bon, on priait pour... voilà, mais on faisait rien, donc ça marchait pas. Et donc, c'est le jour où on a dit, le Seigneur nous a dit, alors, qu'est-ce que vous allez faire de votre souffrance? Là, faut peut-être faire quelque chose. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à trouver une solution. Parce qu'il fallait sortir, il fallait avoir le courage d'affronter le problème. Alors, le quatrième stade de développement, 6-12 ans. Ce stade voit se développer chez le jeune chez le jeune, pardon, un sentiment d'infériorité ou de supériorité, mais qui obéit au même principe. Le corps change de façon pas toujours harmonieuse, on grandit trop vite, les oreilles qui se décollent, donc, ou au contraire d'être une belle jeune fille que tout le monde encense, « Ah, qu'est-ce que tu fais belle !» Donc on peut avoir comme ça, développer un sentiment d'infériorité ou de supériorité, et on va être confronté à son incompétence pour y échapper, on va développer ce sentiment. À l'âge adulte, idem, devant des situations de sa propre incompétence ou de celle des autres, on va se mettre en colère. Alors ça, c'est le cas classique des petits chefs irascibles. Quand ils sont incompétents, pris en défaut, ils se mettent en pétard. Quand c'est vous qui avez fait une boulette, mais c'était à lui de vérifier que vous ne fassiez pas de bêtises, il va se mettre en pétard. Enfin, bref, il y a toujours un moyen pour se mettre en pétard. De 11 à 18 ans, c'est la dernière étape de l'identité sexualisée. Si j'arrive pas à exprimer mon identité sexuelle à ce moment-là, que j'ai des complexes, par exemple, pour les garçons, d'assumer notre masculinité, pour les jeunes filles, leur féminité, la colère va aussi remplacer cette impossibilité de l'affirmation de mon identité sexuelle. Et donc, souvent, c'est là, les maris violents, c'est un peu de là que ça vient, souvent. La colère contre l'autre sexe, notamment dans le couple. Les hommes violents et les femmes violentes par rapport à leur mari, ça arrive aussi. C'est que à cette époque-là, il y a eu un problème de développement psychique. Et donc, on tourne sa colère contre l'autre sexe. Et donc, ces personnes-là, s'ils ne résolvent pas le problème, ben, elles vont passer de couple, enfin de partenaire en partenaire, mais vont toujours être dans le même problème. Donc, en fait, si vous réfléchissez à ça, vous pouvez vous-même savoir à quel stade... Alors, des fois, c'est pas... Moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça. C'est pas net d'être sur un stade de développement vraiment particulier, mais il y a quand même une dominante. C'est comme tout, il y a une dominante dans notre vie. À un moment donné, on s'est arrêté pour se développer. Alors la colère mal utilisée vient s'enquister dans des complexes, des maladies, car l'énergie de cette colère refoulée doit s'exprimer. Certains vont utiliser cette énergie pour combler leur illusion d'impuissance. Quand je suis en colère, je suis tout puissant. Enfin, c'est ce que je crois. Ouais, le nombre de fois où je me suis mis en pétard dans ma classe, ça servait strictement à rien, mais au moins ça me défoulait, j'avais l'impression d'exister. Ouais, je me raccroche à un rôle qui est une forme d'identité. Alors, il y a beaucoup de fausses croyances sur la colère. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien ne doit pas se mettre en colère, mais supporter les injustices. C'est un grand classique. La preuve, Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Mais 8 jours plus tard, le même Jésus, quand il est arrêté, et qu'un soldat se croit malin en lui mettant justement une gifle, il lui dit, il lui réplique, « Si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal, mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu » Autrement dit, « Tends pas l'autre joue. » À ce moment-là. Ah, pourtant c'est même Jésus. Ouais. D'accord. Il ne leur demande pas des gifles. Alors, ça c'est une contradiction apparente que l'on rencontre souvent dans les Écritures. En fait, il nous faut connaître l'ensemble, car sinon nous risquons de nous piéger nous-mêmes par de faux raisonnements. Il y a des tas de choses dans la vie. Je prends un exemple concret. Mon gendre, il a acheté... La première voiture qu'il a achetée, en revenant de... Alors, je ne sais plus, c'était au moment où ils se sont mariés, ou la Xara.
La Xara, c'est quand ils se sont installés en France.
Ouais. Donc, oui, c'est ça. Donc, on a cherché ensemble une voiture sur Internet, je ne sais plus, par la centrale des particuliers. On est allé la voir, c'était assez loin. C'était en Bretagne, à moins 80 km de Nantes. Et donc, une Xara, diesel, break, enfin, très bien. Donc, on l'a acheté, puis elle leur a fait beaucoup de kilomètres. Elle est morte aux îles Féroé, de froid. Il y avait une pièce qu'il fallait changer, manque de peau. C'était pas possible. Enfin, bref. Donc, ils sont revenus à pied. Enfin, en avion. Et donc, quand ils sont revenus, bah, il a voulu racheter une voiture. Mais cette fois-ci, il s'est débrouillé tout seul. Bon. Et il a répondu à un annonce sur le bon coin, je crois, de particulier à particulier. Alors, une jolie 307 break, toute option, vraiment mignonne et tout. Bon, simplement, sur le contrôle technique, il y avait une allusion à une petite fuite de moteur. Bon, alors il lui pose la question, qu'est-ce que c'est que cette fuite ? Oh, il n'y a pas de problème, je suis allé au garage, tout est nickel maintenant. En fait, c'était pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il avait nettoyé le moteur juste avant de la vendre, un bon coup de Karcher par-dessous, et puis voilà, je t'emballe l'affaire. En fait, la voiture s'est révélée une vraie catastrophe financière, parce qu'il y avait plein de réparations à faire, et ça continue, ça fait déjà la deuxième année qu'ils l'ont, il y a le triangle derrière qui est de suspension, qu'il a fallu changer parce qu'il était complètement mangé par la rouille, enfin bref. Et donc, dans un premier temps, très en colère, notre Jean a essayé de revenir sur la transaction, mais c'était trop tard, il n'y avait pas de recours juridique, puisque c'était une transaction de particulier à particulier. Deuxième temps, colère contre lui-même. Je me suis bien fait avoir. La prochaine fois, je demanderai à mon gendre de m'accompagner pour... mon beau-père, excusez-moi. Ceci dit, je ne suis pas un expert, moi aussi, je frémis à chaque fois que j'achète une voiture d'occasion, parce que c'est un peu une loterie. Oui, il faut être honnête. Hein. Mais il est impossible d'échapper à cette frustration. Colère contre l'autre, d'abord, ça c'est l'émotion, puis après colère contre soi-même, parce que c'est nous qui avons fait la bêtise. Et moi, je pense qu'on peut aller plus loin en développant ce qu'on appelle la philosophie de la loterie. Quand j'ai commencé à mettre en place cette philosophie de la loterie, j'ai vécu beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'en fait, dans la loterie, un coup tu gagnes, un coup tu perds. Et that's life, comme disent les Américains. C'est-à-dire, c'est pas grave, hein. Demain, tu gagneras, voilà. Donc, quand il vous arrive un pépin, enfin, je parle sur le plan matériel, hein, je parle pas sur d'autres plans, c'est la vie. Bon, une fois vous êtes gagnant, une fois vous êtes perdant, bon, c'est pas si grave que ça. Ça vaut pas le coup de s'en vouloir, c'est ça que je veux dire. D'être en colère contre soi-même, c'est destructeur quand même, d'une certaine façon. Vous bouffez de l'intérieur, vous dites, ah là, j'ai raté le coup, ah, j'ai été bête, etc. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne changera pas la réalité. Mais pour en revenir aux contradictions dans la Bible, qui sont portées par le même auteur, elles sont là pour nous éviter la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion ? C'est le contraire de la vie. La religion, c'est le normatif, comme disent les psys. Tu as une grande liste de lois, tu dois pas, tu dois pas. L'Ancien Testament, c'était un petit peu ça quand même. Hein. La loi était, comme dit Hébreu, un pédagogue pour nous montrer le chemin de la libération. Et qu'est-ce que c'est que le chemin de la libération ? C'est le contraire de la loi, c'est l'esprit de vie. C'est pour ça qu'on trouve toutes ces contradictions dans la Bible. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, un personnage de la Bible va agir d'une telle façon et dans à peu près les mêmes situations apparentes, un autre personnage va agir d'une autre façon. Et tout ça, pourquoi ? Pour nous déstabiliser et pour ne pas considérer que la vie chrétienne, c'est un ensemble de règles, c'est-à-dire la loi. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 6, « C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. » Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. C'est quand même très clair. Hein. L'Esprit, lui, communique la vie. Hein. 2 Corinthiens 3, 6. Voilà le secret de la vie chrétienne. Non pas la loi, mais l'Esprit de vie. C'est pourquoi Paul écrit plus loin, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, tout un tas de contradictions. On nous dit qu'il faut prier sans cesse. Et d'un autre côté, le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors, pourquoi prier ? Donc, on ne peut pas échapper à la liberté que nous donne le Seigneur de comprendre les deux aspects de la chose. À savoir que oui, Dieu sait nos besoins, mais il nous demande quand même de les lui dire, de les exprimer. Alors, pourquoi ? Parce que justement, ça fait partie de la vie nouvelle en Jésus-Christ, je pense, c'est-à-dire de savoir exprimer à la fois nos besoins et notre connaissance. Moi, je pense que c'est ce qu'on fait quand on prie avant le repas. Ça, c'est très formateur pour les enfants. Les enfants, ils comprennent. Moi, je sais que j'ai du mal avec cette affaire. Il a fallu se discipliner. On a mis des années avant d'y arriver en famille. Parce qu'on n'avait pas de modèle de nos parents. Hein, on venait de famille athée, tous les deux. Donc, la reconnaissance, si on peut dire, du ventre, c'est la première des reconnaissances. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. C'est très simple. Donc, comprendre que remercier Dieu à chaque repas, c'est pour nos enfants aussi leur faire comprendre que tout vient de Dieu et que comme ça, bah, ça les amène tout naturellement sur la voie de l'Évangile, la voie de la vie chrétienne. C'est important. Enfin, voilà. Donc, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais franchir une autre étape, mais j'aimerais nous laisser sur cette question-là. Pourquoi le Seigneur veut qu'on s'appuie plutôt sur l'Esprit que sur la loi? Et puis la prochaine fois, donc en septembre, je suppose, on verra d'autres fausses croyances concernant la colère. Et puis après, comment gérer la colère? C'est-à-dire comment l'exprimer de façon acceptable. Donc voilà. On va prier pour finir. Seigneur, ta parole est toujours surprenante. Ta parole est là pour nous révéler ta vie, la vie des hommes aussi, la vie de l'humanité. L'Ancien Testament est là pour nous montrer que la loi n'était que l'ombre des choses à venir, comme disait là encore, je pense, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et que tu veux nous marcher en nouveauté de vie, mais en comprenant bien que ta volonté s'exprime par ton esprit et par ta volonté. Et nous voulons te demander, Seigneur, d'être attentif à cette voie de l'esprit, aussi attentif à ta parole qui nous révèle quand même ton caractère et tout un tas d'expériences qu'ont fait les premiers chrétiens de la vie par l'esprit. Et nous voulons te redire notre reconnaissance de ce chemin que tu places devant nous, un chemin de liberté, un chemin d'authentique liberté qui nous permet d'être vrai avec toi, d'être vrai avec les autres. Nous allons te remettre cette semaine pour nous tous et pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, que tu nous permettes d'expérimenter cette liberté de l'esprit. Amen.